Chapitre 21, The Wild Side.
Le vertige, c'est autre chose que la peur de tomber. C'est la voix du vide au-dessous de nous qui nous attire et nous envoûte. Le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi. Milan Kundera.
Paris, Montparnasse, mardi 20 décembre, 19h20. Devant le miroir de son appartement, Madeleine ajustait sa tenue de camouflage. Maquillage chic et discret. Talons hauts pour étirer sa ligne, petite robe noire en taffetas de soie. Tout se jouait dans la longueur de jambe. Ni trop longue, ni trop courte, juste au-dessus du genou. Ce soir, elle se considérait comme étant en mission. Et, à en juger par les bombasses qui défilaient dans le lit de Georges, il fallait qu'elle soit désirable si elle voulait réussir à le piéger. Elle enfila le manteau en gabardine que lui avait offert Raphaël et sortit de son appartement, se sentant suffisamment piquante et fatale pour tromper l'ennemi. À cette heure-ci, les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc. Malgré le froid, elle préféra donc le métro au taxi et s'engouffra dans la bouche de la station Raspail. Montparnasse, Pasteur, Sèvres-le-Courbe. La rame était bondée. La plupart des voyageurs revenaient de leur travail, d'autres sortaient dîner ou allaient au spectacle, d'autres encore effectuaient leurs emplettes de Noël. Madeleine ouvrit son sac à main. Il contenait son Glock 17, son ancienne arme de service qu'elle n'avait jamais restituée, et un livre de poche, le cavalier suédois que sa libraire lui avait conseillé depuis longtemps. Cambronne, La Motte Piquet, Duplex, Birakheim. Debout contre le strapontin, elle regardait autour d'elle. Il lui semblait que de moins en moins de monde lisait dans les transports. Comme ailleurs, les gens scrutaient leur écran de téléphone, dialoguant, jouant, écoutant leur musique. Elle essaya de se plonger dans le roman, mais fut incapable de se concentrer. Trop de monde, trop de bousculades et surtout le poids de la culpabilité qui lui pesait sur les épaules. Depuis samedi, elle mentait à Raphaël. Et ses mensonges étaient de moins en moins innocents. Ce soir, elle lui avait fait croire qu'elle se rendait à l'enterrement de vie de jeune fille d'une copine. Heureusement qu'il n'était ni méfiant ni soupçonneux, sinon il n'aurait pas été long à la démasquer. Passy, Trocadéro, Boissière, Kléber. Comme elle l'avait espéré, Georges Latulipe n'avait pas tardé à reprendre contact avec elle. Quelques heures à peine après leur accident, il l'avait appelée à la boutique, lui proposant un déjeuner. Pour les moustiller, elle avait d'abord refusé. Mais il avait heureusement insisté, et cette fois, Madeleine avait accepté un dîner. Elle connaissait bien les types comme Georges. Dans les articles psycho des magazines féminins, on les appelait des séducteurs compulsifs. Dans la réalité, on les appelait des queutards. Question de vocabulaire. Elle descendit au terminus de la ligne 6. Dès la sortie du métro, elle fut cueillie par l'explosion féerique des illuminations. Sur plus de 2 kilomètres, de la Concorde à la place de l'Étoile, les centaines d'arbres de la plus belle avenue du monde étaient bardés d'oriflammes de cristaux bleutés. Même le Parisien le plus blasé ne pouvait rester indifférent devant la magie du spectacle. Elle resserra son manteau, s'engagea dans l'avenue Hoche et marcha jusqu'au restaurant du Royal Monceau. « Vous êtes ravissante, » l'accueillit Georges. Il ne s'était pas foutu d'elle. La salle à manger du palace faisait de l'effet, avec ses colonnades, ses fauteuils en cuir beige et ses jeux de matière, chaises de bar en métal, comptoir translucide. « Vous aimez la déco ?» demanda-t-il, tandis qu'on les installait à une table dans une petite alcôve discrète. Madeleine hocha la tête. « C'est signé Stark. Vous saviez qu'il avait aussi habillé mon restaurant ?» Non, elle ne le savait pas. À partir de ce moment, elle ne parla presque plus, se contentant d'être belle et de sourire, feignant l'admiration devant la parade amoureuse de Georges le Bonobo. Son discours était rodé. Très à l'aise, il faisait la conversation pour deux, parlait de ses voyages, de sa pratique des sports extrêmes, de David Guetta et d'Armin Van Buuren qu'il connaissait personnellement, de la nuit parisienne qu'il jugeait morose, sinistrée et presque morte. C'est gravissime. Il n'y a plus de véritable culture underground dans la capitale. Les meilleurs DJ et les labels les plus créatifs s'expatrient à Berlin ou à Londres. Si tu veux vraiment faire la fête aujourd'hui, il faut prendre un avion. Madeleine écoutait d'une oreille distraite ces paroles formatées qu'il avait déjà dû prononcer 100 fois. Lorsqu'on lui apportait un plat, œufs mollets aux écrevisses et aux cèpes, quasi de veau au jus et aux carottes, elle se demandait ce qu'en aurait pensé Jonathan. Après avoir dégusté chaque bouchée de son dessert, un millefeuille extraordinaire au chocolat et au citron, elle accepta d'aller prendre un dernier verre chez Georges. Elle s'installa sur le siège passager de la Porsche que le voiturier venait d'avancer. Avant de démarrer, la tulipe se pencha vers elle et l'embrassa sur la bouche. Décidément, ce type ne doute de rien. Elle lui sourit, fit semblant d'aimer ça et lui rendit son baiser. Pendant ce temps, à San Francisco. Il était midi à l'horloge de l'aéroport. Jonathan embrassa son fils et le reposa au sol. Un billet d'avion à la main, il planta son regard dans celui de Marcus. « Bon, je te confie Charlie pendant 2 jours. Alessandra reste en ville pendant les vacances, elle pourra venir t'épauler. Quant au restaurant, j'ai annulé toutes les réservations jusqu'à la fin de la semaine. »«
Tu es sûr que tu veux prendre cet avion ?»«
Certain. »
Je ne vois pas très bien ce que tu vas foutre à Londres.
En fait, je vais à Manchester. Il faut que je rencontre quelqu'un, que je vérifie 2 ou 3 détails.
Mais ça ne peut pas attendre.
Non.
Tu ne veux pas m'expliquer ?
Jonathan resta évasif. J'ai une dette à payer, des fantômes à chasser, certaines zones d'ombre à éclaircir.
Ça a un rapport avec cette femme, Madeleine Green ?
Je te raconterai tout lorsque j'y verrai plus clair. En attendant, prends soin de Charlie.
« Bien sûr.
Pour toi, ça veut dire pas une goutte d'alcool, pas de pétasse à la maison, pas de pétard, de joint, de bœuf, de shit, de weed, de... »«
Je crois que j'ai saisi. » »«
Et pour lui, ça veut dire brossage de dents matin, midi et soir, pas de film ou de dessin animé violent, pas de télé-réalité, pas de sucrerie toutes les 5 minutes, au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour, pyjama et au lit à 20h. »«
Compris.
Tout est clair ?»
« Comme du jus de boudin !» répondit Marcus, ce qui fit pouffer Charlie.
L'un après l'autre, Jonathan les serra dans ses bras une dernière fois avant de passer la zone d'embarquement. Le vol British Airways à destination de Londres décolla de San Francisco peu après 13h. Regardant à travers le hublot, Jonathan ressentit un pincement au cœur. Était-ce une bonne idée d'abandonner ainsi son fils qu'il voyait déjà si peu en pleine vacances de Noël ? Sans doute pas. Pourtant, il se força à chasser ses doutes. À présent, il ne pouvait plus faire demi-tour. Il fallait qu'il comprenne, qu'il aille au bout de ce mystère, au-delà des souvenirs et des faux-semblants. Après Madeleine, son tour était venu de se confronter au fantôme d'Alice Dixon.